avec Karine Bécart. Nous recevons deux invités ce matin dans ce grand entretien pour comprendre la crise qui se joue autour des migrants. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui tentent encore ces dernières heures de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. Ils seraient autour de 2000 en ce moment à Calais, nullement dissuadés par le drame de cette semaine. Du jamais vu dans la Manche, le naufrage mercredi d'une embarcation qui a fait 27 morts au large de Calais. Depuis, Paris et Londres se rejettent la faute et signent des tensions. La réunion prévue demain entre plusieurs ministres européens pour renforcer la coopération se fera sans la ministre britannique de l'Intérieur. Alors, quelles réponses les pays européens peuvent-ils apporter? Sont-elles uniquement sécuritaires? Quelles sont les autres pistes? Les Britanniques jouent-ils un double jeu, comme le disent les autorités françaises? On en parle ce matin avec François Gémen. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Sciences Po Paris, spécialiste des questions de migration. En ligne avec nous également du Royaume-Uni, Dominique Grieve. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien procureur général, ancien député conservateur britannique également. Vous vous êtes opposé au Brexit et à Boris Johnson à cette occasion. Dominique Grieve, avant de venir sur le fond du bras de fer entre la France et le Royaume-Uni, je voudrais que vous nous expliquiez, que vous nous disiez comment ce drame a été vécu dans votre pays. Est-ce qu'il a suscité une forte émotion, beaucoup de réactions? Ou bien les Britanniques considèrent-ils tout cela comme un problème avant tout franco-français?
Ça a suscité beaucoup d'émotions de voir des gens partir et mourir dans la Manche de cette façon. Bien sûr que les gens en sont émus. Mais il est aussi vrai qu'il y a une très forte pression du public d'arrêter ce genre d'immigration et le sentiment que ça devrait être capable d'être arrêté et qu'il y a un manque de coopération franco-britannique pour le faire. Donc, il y a beaucoup de pression sur les politiques britanniques de faire quelque chose, parce que ces dernières semaines ont vu, les politiques pendant l'été, ont vu un grand nombre de gens arrivant en illégalité au Royaume-Uni de cette façon, et les gens sont impatients de voir quelque chose pour arrêter ça.
Vous parliez de l'augmentation des arrivées par la mer au Royaume-Uni, près de 26 000 depuis le début de l'année, ça c'était le chiffre au 25 novembre. François Gémen, c'est 3 fois plus que sur toute l'année 2020, 14 fois plus qu'en 2019. Comment l'explique-t-on?
Alors c'est certain qu'il y a une recrudescence des traversées, j'ai envie de dire que c'est à la fois l'effet du Brexit et le fait que les passeurs incitent de plus en plus les migrants à traverser la Manche. Et c'est aussi le fait que les contrôles ont été renforcés considérablement à l'entrée du tunnel. On a de plus en plus sécurisé, militarisé la frontière. Et donc les gens sont contraints de prendre des routes migratoires plus dangereuses et donc d'essayer de traverser la Manche sur des canaux.
Plus globalement, pardonnez-moi François Gémen, entre ce qui se passe dans la Manche, la Pologne dont on parlait il y a quelques semaines à peine, la Méditerranée toujours, quel est le niveau de pression migratoire en ce moment aux portes de l'Europe? Est-ce qu'elle commence à ressembler à ce qu'on a connu entre 2015 et 2016 par exemple?
Ah non, pas du tout. Les chiffres des arrivées, je dirais, sont revenus au niveau qu'ils avaient en 2012-2013, c'est-à-dire avant qu'on ne connaisse ce qu'on appelait la crise des réfugiés syriens. Simplement, ce qu'il y a, c'est
qu'il y a pas un afflux considérable en ce moment de migrants.
Considérable. C'est-à-dire qu'à Calais, on parle de 2000-2500 migrants. À la frontière polonaise, on parle de 3 ou 4000 personnes.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'on a des migrants qui sont concentrés sur des points de pression frontaliers particuliers. Et ça crée des images spectaculaires et ça crée évidemment de l'anxiété, des tensions politiques et surtout et avant tout des drames humains comme celui de Calais, mais aussi comme ceux qu'on a régulièrement à la frontière polonaise. Mais par contre, en termes de chiffres globaux,
ce sont pas des chiffres impressionnants comme on les a connus.
On n'est pas dans une situation de crise, on n'est pas dans la situation où on avait les mêmes chiffres que pendant la crise syrienne.
Alors, ces migrants ne veulent pas rester en France, ils souhaitent rejoindre le Royaume-Uni. Pour expliquer cela, le gouvernement français, Dominique Grieve, parle beaucoup du marché gris, du travail illégal au Royaume-Uni. Les entreprises britanniques auraient besoin de cette main-d'œuvre. Est-ce que c'est la réalité?
Je ne suis pas certain que c'est la réalité. Il est vrai que puisque nous n'avons pas de carte d'identité, il est probablement plus facile de travailler au gris en Angleterre qu'il ne l'est en France. Mais dans ces dernières années, on a fait beaucoup d'efforts pour l'arrêter et je ne suis pas du tout certain que c'est la raison. Je crois que la raison principale, c'est que l'Angleterre, nous parlons l'anglais, c'est une langue qu'ils connaissent, Ils ont souvent des liens de famille, peut-être éloignés, mais des liens de famille qui sont des gens qui sont déjà implantés, et ils ont le sentiment que le Royaume-Uni est un pays plus accueillant que d'autres pays européens.
Mais vous avez aussi les demi-jobs, Dominique Grive, vous avez aussi ce qu'on appelle les demi-jobs. Est-ce que cette politique-là va continuer en Angleterre? Est-ce que vous acceptez de le réformer éventuellement?
Eh bien, il est possible que le gouvernement décide de faire des changements, vu la pression du public à ce sujet. Il est aussi vrai que la pression, que le taux d'immigration totale n'est pas particulièrement élevé. C'est la méthode qu'ils emploient pour venir au Royaume-Uni qui est particulièrement en évidence et qui inquiète les gens. Donc, ce qu'on vient de dire est absolument correct. Ce n'est pas une grande marée d'immigrants en ce moment.
C'est pas ce que dit Boris Johnson. Boris Johnson dit qu'il y a une pression énorme en ce moment et que la France laisse passer trop de migrants vers le Royaume-Uni.
La pression est là. La pression est là sur l'Europe tout entière. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent venir, comme nous voyons en Bélarus, qui veulent venir en Europe ou qui traversent la Méditerranée pour venir en Italie. Maintenant, de nombreux de ces gens s'arrêtent dans d'autres pays européens, particulièrement l'Allemagne. Mais il y a certainement un groupe ou des groupes qui veulent venir en Angleterre. Et la difficulté, c'est que le gouvernement britannique a fait beaucoup de promesses au public que ce genre d'immigration serait arrêté. Et donc de voir ce qui se passe sur les plages et dans la Manche entre Calais et Douvres, c'est du point de vue de leur relation avec le public, c'est très mauvais pour le gouvernement.
Pour finir d'exposer la situation, je me tourne vers vous, François Gemène. Ça fait 30 ans qu'on envoie des migrants s'installer sur la côte d'Opale en espérant franchir la Manche. Aujourd'hui, il y a quand même l'agence Frontex qui a des moyens qui ont été d'ailleurs renforcés, qui a des missions précises, celle de surveiller et de contrôler l'espace Schengen. Qu'est-ce qu'elle fait en ce moment, l'agence Frontex?
Alors, pour le moment, elle patrouille essentiellement en Méditerranée, c'est-à-dire qu'elle essaye d'intercepter toute une série de bateaux qui franchiraient la Méditerranée. Comme vous le dites, son budget a cru considérablement. On atteint presque le milliard d'euros annuel désormais. Mais curieusement, évidemment, l'agence Frontex n'a pas de mandat pour intervenir dans la Manche, puisque quelque part il s'agirait de protéger la frontière britannique, et donc dans ce cas-là, elle n'a pas de mandat. Et la Pologne refuse par ailleurs qu'elle intervienne à la frontière polonaise, alors que paradoxalement son siège est établi à Varsovie.
C'est-à-dire que si Paris demandait le soutien de Frontex à la frontière au large de Calais, Frontex ne pourrait pas intervenir?
Ça me paraît difficile, puisque le mandat de Frontex, c'est quelque part d'empêcher que les gens arrivent dans l'Europe, pas que les gens partent. Il faut quand même rappeler un point essentiel, et je vais vous lire ici l'alinéa 2 de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est que toute personne a le droit de quitter tout pays. Et donc, en empêchant les gens de quitter la France se place en violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je pense que c'est quand même important de le rappeler.
Oui, complètement.
Alors, on assiste depuis quelques jours à une montée des tensions entre Paris et Londres, dans la foulée de ce drame et de la mort de ces 27 hommes, femmes et enfants dans la Manche. Boris Johnson a écrit à Emmanuel Macron, c'était jeudi, une lettre qu'il a d'abord publiée sur Twitter. Alors sur la forme, ça a considérablement déplu au président français. Sur le fond, Boris Johnson demande à la France de reprendre les migrants qui arrivent illégalement en Angleterre. Sa ministre de l'Intérieur, Priti Patel, elle avait menacé de refouler en mer les bateaux de migrants clandestins en les raccompagnant avec des jet-skis vers les côtes françaises. Dominique Grive, vous qui êtes au Royaume-Uni, comment est-ce qu'on explique ce ton très, très dur?
Eh bien, à mon avis, le ton du gouvernement, la façon dont le gouvernement britannique s'est approché de ce problème est entièrement contraire à nos intérêts. À suggérer qu'on allait refouler au milieu de la Manche les bateaux, d'abord, c'est impossible sans mettre en danger les gens qui sont dedans, et ça ne va pas se passer. Donc c'était une rhétorique qui a été faite par le gouvernement simplement pour essayer d'amadouer les médias qui demandaient de l'action. Deuxièmement, le second problème, c'est que les relations entre M. Johnson et le président Macron sont en ce moment absolument nulles. Et ça vient de plusieurs problèmes, mais M. Johnson est certainement responsable pour une partie de ce problème.
C'est-à-dire...
Il n'aurait jamais dû, par exemple, publier la lettre qu'il avait écrite au président. Mais ça montre que dans un monde où nous avons des mouvements populistes, et puis en plus le président Macron approche des élections, nous avons des tensions dans nos relations qui sont, à mon avis, entièrement nuisibles à résoudre ce problème d'une façon humanitaire, et qui contribuent au problème. Et je dois dire que de ne pas inviter la secrétaire d'État de l'Intérieur à cette réunion quand ça concerne en partie le Royaume-Uni, c'est assez bête, malgré que je comprenne bien que le président Macron soit très irrité avec M. Johnson.
Mmh. Est-ce qu'un des gros problèmes quand même de Boris Johnson aujourd'hui, c'est pas le Brexit, qui n'a pas permis au Royaume-Uni de reprendre le contrôle de ses frontières ?
Oui, parce que une partie des promesses qui ont été faites pendant le référendum du Brexit et que les gens pensaient, qui ont voté pour le Brexit, c'était qu'on allait reprendre plus facilement le contrôle de nos frontières. Et dans un sens, nous avons pu le faire, puisque il n'y a plus la liberté de circulation pour les Européens qu'il y avait auparavant. Mais le problème a toujours été que l'immigration qui concernait le public, c'était une immigration qui venait de gens d'en dehors de l'Union européenne. Donc ça n'a fait aucune différence. La seule différence, c'est que nous ne faisons plus partie de la Convention de Dublin. Nous ne sommes plus liés à l'Union européenne pour les entretiens qui pourraient avoir lieu à Bruxelles pour discuter de ce problème. Mm-hmm. Donc, à mon avis, nous avons été désavantagés par notre sortie. Et donc, du point de vue de la politique de M. Johnson, ça, c'est assez dangereux, parce que puisque les gens s'étaient fiés à lui qu'en quittant l'Union européenne, nous n'aurions plus ces problèmes d'immigration, le fait qu'elle continue pour sa politique, c'est une mauvaise histoire.
Mmh. François Gémen, ce qu'il faut expliquer, c'est que ce sont les accords du Touquet qui ont été signés en 2003, qui établissent les règles entre la France et le Royaume-Uni, et que la frontière britannique, elle est située en fait au large de Calais. Que disent ces accords ?
C'est-à-dire que ce sont des accords assez simples, finalement, de sous-traitance mutuelle, où chaque pays s'engage à surveiller la frontière de l'autre. C'est pour ça que vous avez notamment des douaniers français au départ de l'Eurostar quand vous le prenez à Londres. Mais évidemment, ces accords sont déséquilibrés, puisqu'il y a beaucoup plus de personnes qui cherchent à passer de France vers l'Angleterre que l'inverse.
On l'a bien compris.
Et donc, on voit bien aujourd'hui que ces accords sont aussi un peu contraires dans leur application au droit international. Comme je l'ai dit, la France n'a pas le droit d'empêcher des gens de quitter le territoire, et le Royaume-Uni n'a pas le droit non plus de refouler des demandeurs d'asile. Non seulement c'est très dangereux, comme on vient de l'expliquer, mais c'est aussi complètement illégal.
Il faut les revoir,
le
Royaume-Uni, ces accords du Touquet ou pas?
Le Royaume-Uni est signataire de la Convention de Genève sur l'asile. Ça veut dire qu'il a l'obligation d'enregistrer les demandes d'asile qui sont faites sur le territoire. Il n'a pas le droit de refouler les gens. Les gens, s'ils souhaitent demander l'asile au Royaume-Uni, doivent pouvoir le faire.
Donc il faut revoir ces accords du Touquet aujourd'hui.
Je ne comprends pas que ça n'ait pas été fait plus tôt.
Mmh. Une question encore sur cette question du contrôle des frontières. On est en pleine campagne électorale en France pour la présidentielle. On a un certain nombre de candidats qui nous promettent de reprendre le contrôle de nos frontières. C'est un leurre ou pas ? C'est possible ou pas de faire ça ?
C'est un leurre. Vous savez, il y a cette citation attribuée à Einstein qui dit que la folie, c'est de faire sans cesse la même chose et d'espérer toujours un résultat différent. Ça fait 25 ans qu'on est dans cette logique de fermeture et de sécurisation et de militarisation des frontières. Ça fait 25 ans que les flux migratoires n'ont pas diminué. Donc ça n'a aucune efficacité, mais en plus ça provoque des drames humains absolument abominable. Et donc, ce qu'il faut comprendre, notamment à Calais, c'est que plus on va sécuriser la frontière, plus on va encourager le commerce des passeurs, plus les passeurs vont devenir indispensables pour franchir cette frontière, plus il va y avoir de traversées illégales, et plus on va donc surenchérir dans cette logique de sécurisation. On est dans une sorte de cercle vicieux dont on ne parvient pas à sortir, dont les premières victimes sont les migrants et les premiers bénéficiaires, les passeurs, avec 5 milliards de chiffre d'affaires en Europe, et les industries de surveillance et d'armement.
Mais du coup, quelles sont les solutions ? Quelle politique migratoire commune aux 27 États européens, du coup, si je vous entends bien, est envisageable ?
Qu'est-ce qu'il faut construire ? Les solutions, c'est d'abord davantage de coopération, notamment en Europe, via une agence européenne de l'asile. Ce sont des voies sûres et légales pour atteindre d'autres pays, notamment avec des corridors qui permettent de demander l'asile. Et c'est enfin qu'on sorte de cette logique délétère de l'appel d'air, où l'on pense que si les gens sont bien accueillis, bien logés et nourris, ça va faire venir d'autres gens. Mais ces gens ont effectué un trajet de plusieurs milliers de kilomètres, ont risqué leur vie plusieurs fois, ont dépensé des milliers d'euros auprès des passeurs. Ce n'est pas la perspective d'avoir une douche, un lit et un repas à Calais qui va les faire quitter leur pays, bien entendu. Il faut comprendre que ils ont déjà tellement sacrifié que ce n'est pas ce dernier obstacle, la Manche, qui va les arrêter par rapport à la perspective, notamment, de retrouver un proche.
Le problème, c'est que les 27 États européens ne sont pas d'accord avec ce que vous êtes en train de dire.
Ah, bien sûr.
La politique migratoire va être difficile à construire.
Va complètement à l'encontre de l'opinion politique.
Quand vous dites un corridor humanitaire, par exemple, pour la Manche, ça veut dire que les 2000 migrants qui sont en ce moment autour de Calais iraient...
Ceux qui sont en possibilité de demander l'asile, par exemple, on pourrait les mettre dans l'Eurostar pour qu'ils arrivent de façon sécurisée, qu'ils puissent demander l'asile. Et puis, si leur demande d'asile est refusée, à ce moment-là, c'est à l'Angleterre de s'en occuper, pas à la France.
Qu'est-ce qu'on peut...
Dominique Grieve, dans le débat britannique, est-ce que cette option est envisagée ne serait-ce qu'une seconde, vous qui avez été député britannique?
Écoutez, l'analyse qui vient d'être faite est entièrement juste, mais cette analyse se heurte immédiatement à l'opinion publique. Si un gouvernement britannique adoptait une telle politique, et je pense un gouvernement français, je crois qu'il ne serait pas réélu à des élections. Donc nous avons un problème. La convention sur les réfugiés ne fonctionne pas. Les pays commencent à refouler. Regardez ce qui se passe en Pologne. Parce qu'ils ont peur que sinon il y aura une marée d'immigrants qui vont arriver. Et c'est la peur, donc, qui est en train de faire la politique. Le problème, c'est que si on accueille les demandeurs d'asile et puis qu'on leur refuse l'asile, on sait très bien qu'ils ne repartiront jamais. C'est ce qui s'est passé dans les 30 dernières années. Le chiffre de personnes qui ont été retournées dans leur pays d'origine est minime. Donc, tous les gouvernements européens ont un problème. Et je dois vous dire, je ne sais pas ce qu'est la solution. Mais c'est un problème critique parce que c'est très nuisible à notre liberté et notre démocratie. Parce que ça encourage le populisme, ça encourage la politique des forts et les gens qui disent qu'ils vont avoir une solution.
Merci à tous les deux. Merci Dominique Grieve d'avoir été en ligne depuis le Royaume-Uni ce matin. Ancien ministre, ancien député britannique. Merci également à François Gémen, chercheur en sciences politiques à Sciences Po Paris, spécialiste de ces questions de migration.